perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le 106.1. Bienvenue dans l'émission Check Me Load. Au sommaire de ce 8 mars, eh bien, on aura de la nouveauté avec non pas un, mais deux albums de la semaine. Alors ça, ce sera suivi d'un petit échantillon de quelques très belles sorties de ces 15 derniers jours, donc du 1er mars et d'aujourd'hui. Et puis, alors ce sera des sorties 100% heavy metal hein, pour les nouveautés. Et puis ensuite, on va changer d'ambiance pour la deuxième partie d'émission qui, elle, sera 100% death avec l'interview du groupe Gorod. J'aurai en effet le plaisir de recevoir Julien, le chanteur du combo, pour nous présenter The Orb, leur dernier album, en vue de leur passage samedi 16 mars au Café Charbon. On restera d'ailleurs dans l'univers de Gorod pour la rubrique finale Sortez Cover, puisqu'on écoutera leur excellente reprise des Doors, qui clôt donc ce dernier album en date. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. On a un programme chargé, alors on perd pas de temps, et on attaque tout de suite avec les albums de la semaine. Et le premier des deux coups de cœur de la semaine, c'est bien évidemment le nouvel album solo de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, qui est paru vendredi dernier. Un événement de taille pour tous les fans du chanteur d'Iron Maiden, puisque le dernier disque solo du grand Bruce, il date de 2005, il s'agissait de Tyranny of Souls. Considéré comme un des plus grands chanteurs heavy de tous les temps, Bruce Dickinson, c'est la voix d'Iron Maiden depuis 82, malgré une parenthèse de 5 ans entre 1994 et 1999, durant lesquels il avait été remplacé par Blaze Bayley, qui vient lui d'ailleurs aussi de sortir un album il n'y a pas très longtemps. Et si Bruce avait mis Iron Maiden entre parenthèses, c'était justement pour se consacrer pleinement à sa carrière solo, qu'il avait débuté en 1990, c'était avec l'album Tattooed Millionaire, qui avait pas mal cartonné, qui est vraiment un disque à découvrir ou à redécouvrir si vous l'avez manqué à l'époque. En tout cas, moi, il m'avait beaucoup marqué. Alors concernant la suite de sa discographie solo, Bruce Dickinson, il nous a sorti des trucs bons, des trucs un petit peu moins bons. Parmi ses meilleurs albums, on a par exemple Accident of Birth qui date de 97, Tyranny of Souls aussi était pas mal, hein, celui de 2005, c'est quand même assez inégal, et du coup pour la sortie de The Mandrake Project, eh bien on attendait un petit peu notre chanteur britannique au tournant, même si les premiers extraits s'annonçaient quand même très prometteurs. Bon, ça y est, tout le monde est rassuré, avec ce 7e album solo, c'est un Bruce Dickinson au sommet de sa forme qu'on retrouve, avec 10 titres de pur hard and heavy sur lesquels flotte un air de modernité, de maîtrise et de créativité. Enregistré avec la complicité de son collaborateur et producteur de longue date, Roy Z, Bruce Dickinson nous livre avec The Mandrake Project une histoire sombre et mature de pouvoir, d'abus et de lutte pour l'identité sur fond de génie scientifique et d'occulte. C'est extrêmement réussi. On écoute Bruce Dickinson avec le titre Afterglow of Ragnarok. me fait vraiment kiffer ce titre. C'était Bruce Dickinson sur Bike FM dans l'émission Check Melod. À l'instant, donc, on vient d'écouter le titre Afterglow of Ragnarok, qui est digne d'un album d'Iron Maiden, qui est extrait de The Mandrake Project, le tout nouvel album solo donc de Dickinson. C'est sorti vendredi dernier, le 1er mars, et c'est incontestablement notre premier album de la semaine, même si voilà, j'ai pas pu faire un choix entre les deux, parce que oui, exceptionnellement, j'en ai mis deux aujourd'hui. En ce 8 mars sort un autre album extrêmement attendu et extrêmement réussi qui marque le retour d'une autre des plus grandes voix du heavy metal de tous les temps, celle de Rob Halford et de son groupe Judas Priest, autre formation mythique issue tout comme Maiden de la fameuse New Wave of British Heavy Metal. Alors Judas Priest qui revient donc 50 ans après son tout premier album Rockarola et qui sort aujourd'hui Invisible Shield, son flamboyant 19e album studio, un album sans aucun temps mort. Judas enchaîne 14 nouveaux titres d'un heavy dans la plus grande tradition du groupe. On y retrouve son côté hargneux, son sens inné de la mélodie, sans oublier quelques résurgences 80s loin d'être un garde, bien au contraire, au milieu de cette prod titanesque des plus modernes. Et puis Invisible Shield, c'est aussi Invincible Shield, c'est aussi quelques envolées épiques, c'est aussi des solos de guitare dantesques, il y a du tapping dans l'air, et puis il y a cette voix mythique hein, de Rob Halford, 72 ans, toujours la voix aussi précise, incisive et maîtrisée. En bref, avec Invincible Shield, Judas Priest signe un 19e album incroyable. Alors ok, la relève de Judas Priest, elle est assurée depuis longtemps, mais d'une part, le groupe, il n'est pas prêt à prendre sa retraite, c'est clair à l'écoute de ce nouvel album. Et d'autre part, eh bien, combien de formations de la jeune garde seront encore au sommet dans un demi-siècle ? Eh bien ça, l'avenir nous le dira, mais pour l'heure, on va écouter Judas Priest avec Panic Attack, le titre qui ouvre les hostilités de ce nouvel album. Vous l'avez compris, hein, le titre que vous venez d'écouter s'appelle Panic Attack. C'est un titre de Judas Priest que vous pouvez retrouver sur le nouvel album Invisible Shield et qu'on vient d'écouter dans cette émission de Check Milote sur Back FM. Invisible Shield, c'est l'excellent nouvel album du combo britannique qui est paru aujourd'hui, donc 8 mars, et c'est notre deuxième album de la semaine. Et puis toujours dans les nouveautés 100% heavy metal que je vous propose aujourd'hui, eh bien impossible de passer à côté de Karma, le nouvel album du groupe tunisien Mirat, qui paraît également ce 8 mars. Alors avec son métal progressif aux influences du Maghreb, qui est à la fois incroyablement singulier, épique et magnifique, Mirat ou Miras, je sais pas trop en fait comment le prononcer, c'est un groupe qui s'est rapidement imposé comme une des formations les plus fascinantes de la scène métal internationale actuelle. Formé pas très loin de Tunis en 2001, Mirat a toujours entretenu une relation très particulière avec le public français. Notons d'ailleurs au passage que deux de ses membres sont français, il s'agit du batteur Morgan Berthet et du clavier Kevin Cotper. Depuis les albums Desert Call en 2010 et Tolls of the Sand en 2011, Mirat est aussi devenu un véritable symbole de la révolution du jasmin, dont il incarne parfaitement les voix en combinant des paroles critiques sur la société sur des mélodies luxuriantes et des guitares bien lourdes, bien incisives. Alors sur ce sixième album qui est Karma, le groupe consolide définitivement sa place dans les hautes sphères de la scène heavy internationale avec un mélange puissant et captivant de mélodies orientales et de métal occidental. De son introduction épique jusqu'à son envoûtant titre final, eh bien ce nouvel opus c'est une véritable invitation au voyage. Et ben ça tombe bien, on décolle maintenant pour la Tunisie. Voici Mirat avec le titre Into the Light.
How much of your love you lose in me?
Vous écoutez Check Milo de l'émission dédiée à l'actu metal sur Bike FM à l'instant. C'était le groupe de metal tunisien Mirat avec le titre Into the Light que vous pouvez retrouver sur l'album Karma qui est paru aujourd'hui, donc en ce 8 mars. Jour qu'a également choisi Sonata Arctica pour sortir Clear Cold Beyond, son 11e album. Véritable messie du power metal finlandais, le combo mené par Toni Kako incarne la majesté et la sérénité de la nature nordique depuis sa création en 1995. Et avec Clear Cold Beyond, eh bien, il signe sans conteste un de ses albums les plus implacables à ce jour. On assiste en effet à une résurgence spectaculaire de la marque de fabrique de Sonata Arctica, à savoir un power metal rapide comme l'éclair forgé dans le Grand Nord. Avec une production assurée par Mikko Karmila, figure emblématique de la prod qui avait collaboré avec le groupe à ses débuts, donc à l'époque de ses meilleurs albums, et bien résultat, Clear Cold Beyond sonne massif, lourd et affamé, tout en faisant un clin d'œil aux premiers efforts studio du groupe, lorsque tout était encore entouré d'un profond sens du mystère et de la magie. Alors, c'est vrai qu'après plusieurs disques très très en demi-teinte, même un petit peu mou du genou, j'ai envie de dire, eh bien, le Sonata Arctica qu'on aime est enfin de retour, et ça, ça fait plaisir, ça fait du bien. En voici la preuve en musique avec le titre First Inline. Sonata Arctica revient aux fondamentaux, ça fait du bien. À l'instant, c'était First in Line sur Bac FM dans l'émission Check Me Load, un titre à retrouver sur l'album Clear Cold Beyond qui paraît donc ce 8 mars. Et décidément, on voyage aujourd'hui, hein, puisque après l'Angleterre, la Tunisie et la Finlande, on va prendre la direction de la Grèce. Ce sera notre dernière escale avant de revenir en France. Et on part retrouver Firewind qui a sorti vendredi dernier, donc le 1er mars, Stand United, son 10e album. Firewind, c'est un groupe qui est porté depuis 98 par le virtuose de la guitare Gus Jay, qui a fait ses armes aux États-Unis hein, avant de revenir en grec. Désormais, le groupe il est basé à Thessalonique et depuis, il n'a cessé son ascension vers les sommets de la scène heavy internationale. Avec Stand United, le combo grec ne faiblit pas, bien au contraire, le sujet est ici totalement maîtrisé, son power heavy est implacable et Firewind aligne un à un les hymnes mémorables composés de riffs brise-nuque, puis aussi de ses fameux solos de compétition et de ses refrains fédérateurs à souhait. Voici justement Firewind avec le titre Salvation Day. toute l'actu métal sur Bac FM, c'est dans l'émission Check Melod. À l'instant, c'était Salvation Day du groupe Firewind, un titre à retrouver sur le nouvel album Stand United qui est dispo depuis vendredi dernier. Alors j'avais aussi prévu de parler du nouveau Ministry aujourd'hui, mais j'ai finalement choisi de le mettre de côté pour la semaine prochaine. Ce sera plus raccord avec ce que je vais vous diffuser dans la prochaine émission. On va donc s'arrêter là pour cette sélection de nouveautés 100% heavy, parce qu'aujourd'hui la deuxième partie de l'émission va être consacrée, je l'ai dit tout à l'heure, à Gorod qui sera en concert le samedi 16 mars au Café Charbon avec Orsk, la nouvelle sensation du métal néo-indus venue de Besançon. Alors on mettra un coup de projecteur sur Orsk vendredi prochain avec notamment l'interview du chanteur Bastien, mais aujourd'hui c'est la légendaise bordelaise Gorod qui est à l'honneur, puisque dans quelques instants, Julien, le chanteur du groupe, sera avec nous et ce sera notamment l'occasion de parler de leur excellent dernier album en date, The Orb, qui est sorti il y a tout pile un an. Alors Gorod, pour la petite histoire, c'est un groupe qui a été fondé en 97 sous le nom de Gorgasme, hein, c'est pour ceux qui se souviennent. Et puis, c'est une formation death technique progressif dont le chef d'orchestre est le guitariste virtuose Mathieu Pascal, qui est présent depuis toujours, depuis le début. Gorod, c'est un groupe qui enquête tout le temps de nouvelles expériences. C'est un groupe qui cesse de repousser ses limites en n'hésitant pas à mélanger à son univers death des sonorités jazzy, funky, psyché, groovy, épique, avec beaucoup de maîtrise et technicité, mais toujours au service de la mélodie. Aujourd'hui, à la tête d'une discographie quasi irréprochable, Gorod, c'est une des rares formations hexagonales à tourner régulièrement aux États-Unis, alors qu'en France, eh bien, ça fait que pas très longtemps, hein, depuis la sortie peut-être d'Aetra et surtout de The Orb, que le combo bordelais semble enfin être connu à sa juste valeur, notamment grâce à un passage remarqué au Hellfest et puis au Motocultor l'été dernier. Alors on va bien évidemment évoquer tout ça avec Julien dans quelques instants, mais juste avant, on se met dans l'ambiance avec le titre Crematéisme, c'est extrait de The Orb. We'll be right back. Salut Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui, à quelques jours de votre passage au Café Charbon. Eh bien écoute, c'est super, on va en profiter pour parler de l'actu de Gorod.
Eh bien ma foi, avec grand plaisir, bonjour, bonjour.
Alors l'actu de Gorod, c'est entre autres The Orb, c'est votre dernier album en date. Alors je dis actu, oui, mais quand même, album qui est sorti il y a tout pile un an, c'est ça? C'était le 10 mars 2023?
Ouais, c'est ça, l'officiel, ouais, c'était 10-11 mars, ouais, on devait emmerder, donc ouais, ça va faire un an. Ouais.
Ça va faire un an, mais bon, le disque est toujours bien d'actualité, d'autant que sa sortie a été quand même pas mal remarquée.
Oui, on dirait en tout cas que ça a relativement pris, surtout que cette fois-ci on est revenu, on va dire, au circuit ancien de l'autoproduction. Ouais. Donc ça, c'est toujours un petit peu la loterie, hein. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis on dirait que la réception a été quand même correcte. Il n'y avait pas les aides que peut donner un label au niveau de la promotion, les choses se sont quand même faites, mais avec des moyens moindres, on va dire. Mais bon, apparemment, ça. La sauce a l'air de prendre, donc on va pas s'en plaindre.
En tout cas, il était bien arrivé jusqu'à nous, puisque cet album, je l'avais chroniqué donc l'année dernière, au moment de sa sortie. Et quand le disque est sorti, je m'étais dit, mais tiens, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de nouveau Gorod. Et effectivement, il s'était écoulé quasiment 5 ans hein, entre Etra et puis ce nouvel album. Et après, en regardant un petit peu les chroniques, les interviews, il me semble que le Covid n'est pas tout à fait étranger à cette longue absence, notamment à cause du fait que les lives se sont arrêtés. C'est quelque chose qui vous avait démotivé, ça?
Ah, complètement. Enfin, c'est vrai que, alors déjà, il faut dire une chose, Etra est sorti hors fin de l'année. Hein, donc
ouais.
C'était 2018, certes, mais c'était 19 octobre 2018, donc c'est quand même vraiment fin d'année. Et en effet, pendant 2 ans, on a été quasiment arrêtés. En fait, à partir du moment où les concerts de 2020, c'est-à-dire on était en train de finir la promotion d'Aetra, a été coupée en tenant son élan. On devait rentrer des États-Unis, juste au moment du Covid. Quoi. On était au Canada et ça a suivi tournée américaine. On est rentré genre vers le 10. Donc le 16 mars, tout était fini. Quoi.
Ouais.
Étant donné qu'on était censé un petit peu rebouger en Europe et en France et compagnie avant tout ça, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et le fait de plus voir et de plus jouer, tout simplement, il a fallu déjà du temps avant de se lancer. Et tant que les concerts ne reprenaient pas, c'est clair, la personne s'est motivée. Quoi. C'est qu'à partir du moment où on a eu la première date pour qu'on se dise, allez, maintenant, on va attaquer la composition.
Alors, au final, du coup, quand on écoute The Orb, on peut presque se dire que le Covid, ça a peut-être été un mal pour un bien pour Gorod, puisque ça vous a permis, d'une part, de prendre votre temps, et puis d'autre part, de repousser un peu vos limites en termes d'expérimentation, de revenir aussi en même temps à vos racines d'Death. Et le résultat, c'est cet album, et je trouve que l'équilibre est parfait. Du coup, si The Orb est un fruit du Covid, est-ce qu'on peut dire qu'à sa sortie, il était mûr à point?
Finalement, c'est vrai que la composition est allée relativement vite. Hein.
Ouais.
Il y avait certains morceaux qui étaient déjà lancés depuis un petit moment et qui étaient laissés en stand-by.
D'accord.
Après, elle s'est étalée dans le sens où on a pu expérimenter un peu des choses. Et c'est vrai qu'en le voyant un petit peu avec du recul, on pourrait le considérer comme une sorte de synthèse hein, de l'ensemble de la discographie. C'est-à-dire qu'il reprend plein d'éléments anciens. Il y a même des morceaux... dans les titres de travail que l'on utilisait, on s'est fait même des blagues, genre c'était le retour de tel ou tel morceau. Donc un morceau qui se trouve dans le Dick Vision, qui a été un petit peu, pas parodié, mais repris à son équivalent au niveau des structures, des tempos et des styles de riff. La même chose pour un morceau de Process, donc des deuxième et troisième albums. Et en plus de ça, on a essayé de rajouter des éléments encore inédits. Et ça fait un petit peu cette espèce d'ensemble. Hein, donc on va dire, on a fait un peu le tour de ce qu'on a déjà fait. On a maintenant quelques petits éléments nouveaux sans prendre trop de risques non plus. Hein. On s'est un peu aventuré, mais ça va, cela reste quand même assez mesuré, enfin à mon avis.
Ça reste mesuré, mais quand même, on note qu'il y a des petites choses. Je sais pas, j'ai trouvé peut-être que l'album était un petit peu plus épique que sur la mélodie. Pareil, vous n'avez pas hésité, enfin Mathieu, notamment au niveau des guitares, n'a pas hésité. Il y a aussi, du côté des innovations, alors ça, il me semble que c'est une première, il y a un super solo de batterie sur We Are The Sun's God.
Donc oui, ça c'était vraiment l'idée. En fait, ce morceau, on l'avait appelé Discover Your God, le retour, quoi.
Donc, d'accord.
C'est un morceau qu'on a déjà. Et, c'est même tempo, même style de riff, même délire. Et la particularité de ce morceau, c'est d'avoir un énorme pont de 2 minutes quasiment avec du tapping, donc il met en valeur les mélodies de guitare. guitare. Et là, on s'est dit, ben oui, on va tenter un truc qu'on n'a jamais fait, justement, c'est profiter de ce moment-là pour mettre en valeur la batterie et faire ce solo-là. Donc, c'était une expérimentation totalement volontaire.
Il y a aussi la basse qui est bien mise en avant sur ce morceau-là, justement, qui fait écho, justement, à la guitare de Mathieu. Et ça me rappelle aussi des morceaux à l'ancienne, un petit peu, ou chez Black Sabbath, par exemple, où ça n'hésitait pas, chez Deep Purple, tout ça, à partir un peu en impro.
C'est ça, ouais, il y avait ce côté un peu old school, et c'est vrai que finalement, attention, ce solo, c'est une impro, donc c'est un morceau qu'on joue tous les soirs, enfin, en tout cas, à chaque date depuis la sortie de celui-ci. Et Carole, donc, notre batteur, a son petit mouvement sur lequel il peut se lâcher et fait ce qu'il sent sur le moment. Après, la structure globale reste la même, la dynamique de progression est similaire. Mais tous les soirs, il nous fait des petites surprises. Ça, c'est quand même un petit peu chouette. Il n'y a pas d'impro, non, je veux pas. Tout est écrit, on sait exactement où on va, tout est cliqué et compagnie. Et là, au moins, ça permet d'avoir un petit espace sur lequel on peut s'amuser un peu.
Une petite respiration, quoi.
Ouais.
Donc, compositeur principal, c'est toujours Mathieu, hein, ça n'a pas changé. C'est votre guitariste, c'est aussi un des membres fondateurs de Gorod. Et d'ailleurs, dans The Orb, c'est comme dans tous les albums de Gorod, la guitare tient un rôle extrêmement important. Et je trouve qu'elle est presque aussi importante que le chant.
Ah oui, très largement. De toute façon, c'est de la musique de musicien au départ. Donc, il y a toujours le même processus, ce qui fait, je pense, qu'il y a quand même un lien dans la discographie, hein, c'est que c'est le même compositeur. Donc, quand toutes les idées viennent de la même personne, on va retrouver forcément une patte qui se ressemble, en tout cas, qui est identifiable. Et il est certain que cette musique est marquée par la touche de Mathieu et donc par son côté très guitaristique.
Ouais.
Et c'est quelqu'un qui conçoit les compos avec la guitare en avant et ne pense pas du tout au chant quand il compose. C'est-à-dire que quand il nous envoie les œuvres terminées, généralement, on a donc des parties de batterie qui sont écrites, enfin, en tout cas les structures qui sont déjà programmées, des guitares harmonisées, plus ou moins des lignes de basse, et puis après, le chant, tu te démerdes. Hein.
Ouais.
c'est de trouver ma place là-dedans. Après, de plus en plus, c'est vrai que on lui demandait de faire des structures un peu classiques, style couplet et refrain. Souvent, ce que je lui demande, c'est déjà d'identifier les parties où il ne veut surtout pas de chant.
D'accord.
Déjà, ça m'évite de plancher pour rien. Et en première recherche, et c'est d'identifier ce fameux refrain. Enfin, c'est souvent ça la base de départ. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est intentionnel.
D'accord.
Le début de la composition, en général, c'est tout est pensé comme musique pour instrument, et puis le chant se place comme il peut par-dessus. Donc finalement, le chant est là pour accompagner la musique plus qu'autre chose, bien qu'on essaie de donner l'illusion du contraire sur les compositions finales.
Alors, ce qui est un peu, des fois, ce qui rebute un peu les gens qui écoutent de la musique comme ça, un peu progressive, un peu guitaristique, c'est que souvent, c'est pas accessible. Or, justement, Gorod, c'est très accessible malgré tout, parce que tu viens apporter le chant, parce que les guitares sont là, mais c'est jamais de la technique pour de la technique, c'est toujours au profit de la musicalité, quoi.
Oui, ça c'est un souhait que Mathieu a toujours eu, hein, parce que alors il aime ce qui est complexe et un petit peu chiadé en termes de composition, mais quand c'est juste pour un pur but démonstratif, ça fait partie de tout ce qui le gonfle, hein, littéralement, donc c'est ce que l'on retrouve dans ses compos. Il y a toujours besoin qu'il y ait une part de groove qui est en tout cas le but, c'est comme on écoute les compos, c'est qu'on a envie de bouger la tête, qu'on a envie de se reconnaître dedans et qu'on puisse assez identifier assez vite ce qui se passe sans avoir besoin de faire une étude approfondie des différentes polyrythmies en vigueur, des harmonies ou quoi que ce soit. Voilà, donc le but, c'est qu'il y ait quand même un effet assez immédiat, hein, dans la réception de celle-ci. Donc de garder quand même des compos de rock, hein, on va dire. Ça reste quand même la recherche principale du groupe. De rester quand même sur une approche assez simple, va-t-on dire, dans la vue globale. Et c'est qu'en termes d'analyse pure qu'on se rend compte que finalement, c'est pas si facile que ça, surtout à jouer.
Bah d'ailleurs, à l'écoute du disque, impossible quand même de pas penser à un groupe comme Cynic. Est-ce que ça fait partie des influences de Mathieu ?
Ah, totalement.
Ouais.
Alors là, on est absolument dedans. Disons que quand le groupe s'est formé, donc il reste encore deux membres fondateurs dans le groupe, qui sont Mathieu donc, et Barbie, le bassiste.
D'accord.
Et en gros, leur grand triumvirat de départ, c'était Death, Coroner, Carcass et Cynic, bien entendu, en avant, preuve en est. C'est qu'en 2011, c'est le moment où je suis rentré dans le groupe, à peu près.
Ouais.
Et sorti, enfin même, ça a été fait un petit peu avant, un tribute à Cynic. et où il reprenait déjà la chanson Textures.
D'accord.
Et donc ça fait Cynic fait clairement partie du développement du groupe. Mais ça va être Death, Coroner, Carcass, Cynic, on va dire avec ces 3-4 groupes, t'as à peu près on va dire les fondations hein, du début de Gorod qui s'appelait Gorgasme d'ailleurs à l'époque.
Oui, c'était dans les années 90 au début, c'est ça?
Eh ouais, en 97, ouais. Ouais. Quand ça s'est formé, ouais.
Et est-ce que vous avez les mêmes influences d'ailleurs que Mathieu au sein de Gorod ou pas du tout?
Et alors, ce qu'il y a, c'est que Mathieu, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'écoute pas de métal.
D'accord.
Très, très peu. C'est, donc finalement, en termes d'influence, enfin, il va écouter un petit peu les groupes avec lesquels on joue.
Ouais.
Et de temps en temps, ceux qui passent en soirée. Mais il écoute essentiellement, c'est vrai que des musiques plutôt prog, les grands classiques. C'est vrai que quand je monte dans sa voiture, c'est souvent du Chico Rea qui est en train de jouer.
D'accord.
Il y a un truc qu'il aimait bien qui s'appelait Panzer Ballet.
D'accord.
Qui est un peu complètement barré aussi. Et puis il est très axé 70s. Hein. Voilà, vraiment dans la culture des vieux Altimeola, des funkadéliques, je crois. Et tout ce qui est musique funk est un peu complexe aussi. Hein. C'est vraiment mon son de dire. Bien entendu, King Crimson aussi joue une part assez importante dans l'inspiration. Et c'est un petit peu toujours cela qui revient, avec donc une touche métal extrême. Mais par exemple, la scène souvent à laquelle on a été associé, Tech Death ou Nécrophagiste ou compagnie, faut savoir que c'est des choses que Mathieu n'écoute pas.
D'accord.
Enfin, il connaît, hein, mais c'est pas du tout
c'est
dans son
registre.
C'est pas son
kiff. Ouais,
okay. Lui va chercher beaucoup plus dans les années 70, en fait.
Mais c'est en fait...
Ce qui est vraiment rock progressif et rock psyché, c'est ce qui définit un petit peu les bases des compositions de Gorod, effectivement.
Oh. Ouais, c'est pas étonnant, finalement, hein, quand on connaît un peu votre discographie. Alors, justement, on va rester un peu encore sur The Orb. Côté chant, moi, j'ai l'impression que tu t'es un petit peu plus laissé aller en ce qui concerne les touches de chant clair.
Alors, c'est chaque fois au fur et à mesure, hein, depuis que je suis rentré dans le groupe... Chant clair, enfin, le cas du chant clean, j'en ai toujours fait dans d'autres contextes.
Ouais.
Alors, on dit, bon, on va essayer de laisser un petit peu plus de place à cela, mais on y va quand même petit à petit avec parcimonie. Et après, il y a souvent des choses qu'on a déjà eu tentées hein, par le passé, mais c'est en les enregistrant et en se rendant compte que les résultats ne fonctionnent pas forcément, et bien on revient sur des parties un peu plus traditionnelles. Donc, c'est pas forcément qu'il y a eu beaucoup plus d'expérimentation qu'avant, c'est qu'elles ont été un peu plus validées. Dans
d'accord.
L'ensemble, car plus cohérente avec la musique déjà composée. Mais en tout cas, ce souhait-là a été présent dès 2010, hein, quand je suis rentré dans le groupe. Car j'avais déjà commencé à placer certaines parties clean comme cela dans l'album de Perfect Absolution, mais qui finalement n'ont pas été retenues parce que ça faisait trop bien. Enfin, en tout cas, le résultat final n'était pas convaincant.
D'accord.
Et faisait un petit peu bizarre. Et étant donné qu'il y a des morceaux quand même un peu plus lents, sinon justement comme le titre éponyme hein, du dernier, hein, donc celui-ci a permis de laisser la place à cela. Donc là, j'ai un peu plus voulu me lâcher, enfin en tout cas. Garder certaines idées dans ce style-là, et puis elles ont été retenues. Donc, on verra jusqu'où on ira pour les prochaines fois.
En tout cas, ça apporte.
Mais on va continuer à partir dans ce sens.
J'ai trouvé que ça apportait beaucoup de nuances très intéressantes, justement, à cet album. Quoi. Ces petites
ouais,
touches
voilà,
de chanter.
C'est de cultiver quand même les contrastes, parce que je pense qu'on a eu parmi les morceaux les plus calmes, enfin, en tout cas les plus accessibles et abordables, et parmi les plus bourrins qu'on ait jamais exécutés, sont aussi dans ce disque-là. Quoi. Donc c'est vraiment toujours cette culture des contrastes et quelque chose qui est quand même clairement volontaire dans la composition de cet album.
Alors si le compositeur principal côté musique, c'est Mathieu, côté chant, tu nous l'as dit, hein, c'est toi qui es l'auteur des paroles. Et si Aetra tournait autour du thème de la lune, The Orb tourne, lui, assez logiquement autour du thème du soleil.
C'était déjà dit. Hein, ça...
Ouais.
Quand j'avais fait ça, je savais que sur le prochain, ça allait partir sur cette thème.
D'accord.
Alors là, par contre, les textes en eux-mêmes, vraiment leur thématique précise, j'en avais pas encore la moindre idée. Hein, c'est vraiment, on va dire, l'épisode que l'on a tous un peu vécu. Hein. Avec ces lockdowns et ces privations de liberté fondamentale qui ont un petit peu orienté le caractère un peu plus direct et véhément et presque politique, hein, mais cela reste très dissimulé. Il faut vraiment connaître le sujet pas précisément évoqué et les discussions que j'ai pu avoir avec différentes personnes qui m'ont inspiré certaines thématiques. Mais moi, cette fois-ci, c'est vrai que le soleil n'est pas traité de façon purement poétique ou au service d'un panthéon de divinités, hein, ce qui est le cas d'Aétra. Là, il n'est plus question de Dieu ou de quoi que ce soit. On est un peu plus ancré dans le réel. Et ce sont, ça pourrait être une sorte de petit essai philosophique, hein, avec, ouais, avec des questionnements. Hein. On n'est pas vraiment sur une œuvre aboutie. C'est plutôt chaque morceau un petit peu son identité, avec des questionnements qui leur sont propres. Et, donc vraiment, chaque morceau est traité vraiment différemment cette fois-ci, alors que l'autre constitue un ensemble.
Et justement, l'album, il se conclut sur une sublime reprise de Strange Days des Doors. Alors ça, je la proposerai aux auditeurs en toute fin d'émission, c'est ce qui va la clôturer, cette émission. C'est une chanson qui est très psychée, hein, elle est sortie en 1967 sur l'album du même nom. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revisiter ce titre et comment toi, tu as abordé cet exercice? Est-ce que c'est difficile de passer derrière un monstre sacré comme Jim Morrison?
Ah ouais, c'était pas très gentil ça comme cadeau. Hein. Mais...
bah, tu t'en es sorti vraiment, mais moi je dis bravo parce que t'as réussi à t'approprier cette chanson qui est quand même très très marquée. Hein.
Ouais, c'était pas évident hein, clairement. Hein. Mais en fait c'est parti d'une idée de Carole, donc notre batteur. Hein.
Ouais.
Celui est un gros fan des Doors. Enfin, quand on fait des soirées ensemble, parce qu'on se voit dans d'autres contextes que juste jouer et répéter, on est aussi une vraie bande de potes. Et les Doors, ça fait partie de la playlist des soirées. Hein.
Okay.
On se retrouve. Et lui, donc, voulait reprendre ce morceau. Après, il y en avait d'autres, hein, qu'on aime bien ou autre. Mathieu aussi aime beaucoup les Doors, au passage. Et donc, ils se sont dit, vas-y, on tente cette reprise. Mais Mathieu avait choisi aussi ce morceau, dans le sens où il s'est dit vraiment, c'est le truc qui colle parfaitement avec ma tessiture de voix. Parce que moi, je suis plutôt dans l'ensemble basse-baryton, donc plutôt assez grave, et donc un petit peu aux antipodes de tout ce qui se fait en métal en général, hein, parce que souvent, tous les chanteurs que l'on connaît, à partir du heavy metal, même jusqu'à metalcore et compagnie, en général, les gens sont plutôt haut perché.
Ouais, c'est vrai.
On laisse plutôt la part belle à ceux qui sont de registre de ténor. Hein. Moi, je suis vraiment au truc dans la tessiture opposée. Hein. Et là, au moins, en faisant du Doors, mais là, ça chante pas, et il se dit avec... Enfin, en tout cas, ils m'ont dit, ouais, je te vois bien la chanter. Moi, je connaissais le morceau, hein, bien entendu. Hein. Mais ça fait pas partie de mes musiques de chevet, hein, au départ. Bien que, enfin, voilà, People are Strange et compagnie, voilà, plein de morceaux comme ça que j'adore. Hein. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et en fait, j'ai appris les textes au moment de l'enregistrement.
Hein. D'accord.
J'avais même pas bossé avant. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'au moment des prises, on écoutait chaque fois, chaque phrase originale. C'est de comprendre ce qu'il faisait, c'est de reproduire ce qui se passait, et puis après on refaisait les prises sans que je réfléchisse, quoi. Mais le but, c'était vraiment s'imprégner de l'œuvre originale au maximum, et puis après laisser un petit peu libre cours à ce qui se passait au moment de la prise, hein, sans trop réfléchir non plus.
Et c'est marrant parce que cette reprise, je trouve qu'elle est vraiment hantée un peu justement par ce fantôme des Doors, mais en même temps, voilà, il y a la patte Gorotte dessus, quoi. Vous avez vraiment réussi à vous l'approprier, quoi.
Ouais, c'est ça, il a gardé vraiment toute la structure. Mathieu, pour faire les arrangements synthé, il a appris vraiment les parties exactes, hein, au piano, en les reproduisant. On est vraiment parti de la compo en elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop dévié. C'est plus au niveau de la forme que ça a dévié, finalement. Mais le fond, enfin, les lignes, la partition reste strictement la même. Et clairement, pour ma part, pour la voix, je suis parti dans l'esprit d'essayer d'imiter la voix originale. C'était un petit peu ça au départ, quoi. Enfin, vraiment, le groupe de cover un peu exemplaire qui finalement termine par transgresser un petit peu les lois fondamentales de la composition originale.
Alors, on l'a bien compris, hein, tu nous l'as dit en début d'interview, tu nous as dit tout à l'heure que vous étiez une bande de potes. La raison de vivre de Gorod, c'est le live. Et côté concert, 2003, ça a quand même été une année plutôt faste pour le groupe, avec entre autres, il y a eu un passage au Hellfest, un passage au Motocultor. Est-ce que ça fait du bien d'être enfin reconnu à la hauteur de ce qu'on mérite dans son propre pays, alors qu'on est un des rares groupes français à écumer les scènes américaines?
Et ouais, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette frustration de sentir qu'on était beaucoup plus attendu outre-Atlantique à la maison. Enfin, ouais. Né les prophètes dans son pays, je tendance à dire, et pour nous ça s'applique très très fort. Hein.
Bah oui.
Et, Et on n'a pas trop compris bizarrement pourquoi c'est sur cet album que vraiment la sauce a prise. Et on a commencé à être vraiment programmé de nouveau. Alors qu'il faut savoir que le Hellfest, on l'avait déjà fait, mais notre passage précédent, c'était quand même en 2012.
D'accord, oui, ça datait quand même.
Ouais, 11 ans plus tard, quoi. On y revient, quoi. Et c'était donc pour l'album Perfect Absolution, c'est celui dans lequel je suis rentré, quoi. On en a fait 3 autres entre-temps, quoi. Donc c'est... C'est un petit peu étrange, quoi, comme réception, mais c'est vrai qu'enfin, on a la sensation que les choses bougent à la maison, et ça fait du bien. Il en va de même, par exemple, pour Bordeaux, hein, parce que donc c'est un groupe bordelais. Il faut savoir que la scène bordelaise, enfin, en tout cas, le public bordelais n'est pas facile à faire bouger. Hein. Ça fait partie un petit peu des vitesses, hein, on pourrait dire. Hein. C'est genre, si ça marche à Bordeaux, c'est que vraiment, le groupe marche bien.
D'accord.
Et c'est vrai, c'est à partir de... années 2016-2017, on a commencé à sentir un changement et que enfin le groupe commençait à être reconnu chez lui, sachant qu'il joue depuis 97. Donc il a fallu 20 ans hein, pour que Gorod ait une reconnaissance dans sa propre ville. Il fallait qu'ils aillent jouer ailleurs. Ça marchait mieux à Toulouse, par exemple, pour eux qu'à Bordeaux, quoi.
Ah, c'est fou, hein.
Un ordre d'idée. et en France, ils jouaient exclusivement à Paris. C'était très difficile de jouer ailleurs. Un petit peu en Bretagne. Si on prend Nantes et Rennes, hein, c'est souvent un petit peu les deux autres villes qui ont pas mal accueilli le groupe, mais difficile de passer ailleurs. Et là, ça y est, ça bouge un petit peu. Alors peut-être certainement le passage au Hellfest n'est pas innocent dans cela. Hein, mais,
en général, ouais.
Il n'y a pas que ça, mais bien entendu, c'est quelque chose qui est toujours remarqué. Mais ouais. C'est certain que là, on est un peu content. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on vient dans la Nièvre.
Et
c'est
chouette, quoi. Justement, ce que j'allais dire, il y a encore de belles dates qui se profilent pour cette année 2024, puisque la prochaine, hein, donc, du coup, ce sera chez nous à Nevers, ce sera le 16 mars, et vous allez être sur la grande scène du Café Charbon. Alors, grande scène, voilà, c'est notre grande scène à nous. Donc, ça va être une première pour vous, et vous allez partager l'affiche avec Orsk, une formation Metal Indus de Besançon. Est-ce que vous vous connaissez ?
Moi, je connais la musique, ouais.
Ouais.
Après, moi, je connais pas les gars encore.
Peut-être
qu'on les a croisés, mais ça me dit rien. Mais la musique, oui, je connais déjà, ouais.
Donc, du coup, comment on sent quelques jours de passer à Nevers, est-ce que vous êtes content de venir nous voir au Centre France ?
Ah ouais, c'est hyper chouette. Après, ça m'arrive souvent de me balader un petit peu dans ce secteur.
Et d'accord.
Ça se sait pas, mais je passe un peu de temps en Bourgogne, de temps en temps, un peu plus au nord, du côté de Lyon.
D'accord.
Donc, connais un petit peu chez vous.
Finalement, on n'est pas si loin que ça de Lyon.
Et puis après, ouais, j'ai des amis d'enfance, et dont certains avec qui j'avais formé un groupe qui était avant Gorod, et c'est comme ça qu'on s'est connus. En fait, ça s'appelait Zubrowska.
D'accord.
Et Zubrowska, en fait, il faut savoir que Mathieu et Barbie, donc les deux membres fondateurs, ont enregistré notre premier album. Et dans ces membres du groupe, il y en a qui habitaient à Clamcy à l'époque.
Ah bah voilà, donc, la Nièvre.
J'ai un petit lien lointain avec la Nièvre, quelque part.
Et en tout cas, j'espère que le public du Café Charbon va vous accueillir comme il se doit, comme on sait faire normalement à Nevers quand on a un concert de métal. Et merci Julien de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous présenter The Orb. C'est votre dernier album en date, on le rappelle, hein, il est paru il y a un an, mais ça fait rien, il est encore toujours d'actualité puisque vous allez le défendre sur scène le samedi 16 mars au Café Charbon. D'ailleurs, on va pas se priver d'en écouter un nouvel extrait de cet album pour conclure l'interview. Et ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de te laisser le choix du titre.
Ah !
Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?
Ah ben du coup je vais mettre la plus bourrin, hein. C'est Scale of Sorrows.
Eh ben il n'y a pas de souci.
L'avant-dernière.
On va écouter l'avant-dernier titre du groupe, celui qui a juste avant Strange Days, qu'on écoutera d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission aussi. Merci beaucoup Julien, et puis on se dit donc au 16 mars à Nevers.
Ben carrément, au 16 mars, avec grand plaisir.
Salut, à bientôt.
À très bientôt, ciao ciao.
Scale of Sorrows de God sur Bag FM. C'est le titre que Julien, le chanteur du groupe qui était avec nous il y a quelques instants, a choisi de partager avec nous. Un titre à retrouver donc bien sûr sur The Orb, hein, cet album paru en mars 2023 que God va défendre en live au Café Charbon samedi 16 mars, date sur laquelle il partagera la scène avec Orsk, que j'aurai donc le plaisir d'avoir en interview vendredi prochain. On sera dans un tout autre style, on sera sur du metal indus, même metal néo-indus, un univers également passionnant, donc je vous invite à être là la semaine prochaine. Et pour ce qui concerne la fin de cette émission d'aujourd'hui, eh bien on va rester en compagnie de Gorod pour la refermer sur un air de reprise avec notre incontournable rubrique Sortez Cover. Et comme promis, eh bien on va l'écouter, cette sublime revisite de Strange Days des Doors qu'on a évoqué dans l'interview et qui conclut, je trouve, avec Maestria, cet album The Orb. Alors juste en quelques mots, Strange Days, c'est une chanson qui est sortie le 25 mars 67 sur l'album du même nom. C'est le deuxième album de The Doors et il est paru seulement 9 mois après le tout premier album éponyme de la mythique formation menée par l'iconique Jim Morrison. Connu pour être l'album de la consécration pour The Doors, Strange Days, dont la pochette est tout aussi culte que le disque, a connu un succès retentissant. Il a été certifié disque de platine aux États-Unis. Alors on y trouve plusieurs titres emblématiques des Doors comme Love Me Two Times, People Are Strange et puis Strange Days qu'on va écouter. Revue et corrigée version Death par Gorod, c'est tout de suite. Alors le prochain Check Melod, juste avant de lancer la musique, ce sera donc le 15 mars, hein, j'avais un peu teasé la date, donc avec l'interview n'oubliez pas de Orsk si vous voulez aller jeter une oreille au son du groupe, c'est vraiment excellent, donc ce sera en plus la veille du concert au Café Charbon. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt, on se retrouve normalement lundi pour la découverte du jour à 13h, je serai en compagnie de Théo que j'accompagne chaque jour avec plaisir, et je vous dis à bientôt, surtout quoi qu'il arrive, stay metal, stay rock'n'roll, salut à tous.